Mon invité compte 24 ans de vie municipale à Bécancour, dont près de 18 comme maire. Il a donc été un acteur majeur dans l'histoire de cette ville qui a fêté son 50e anniversaire en 2015. Cette jeune ville, issue de la fusion de 11 corporations municipales, est unique en son genre de par son vaste territoire, à la fois urbain, rural et industriel. Bien que gérer une telle entité pose de nombreux défis, c'est un Jean-Guy Dubois fier du résultat qui a pris sa retraite de la politique en 2021, mais qui est toujours très actif dans sa communauté. Monsieur Dubois, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, on a surtout connu Jean-Guy Dubois comme personnalité politique. On en sait beaucoup moins sur vous comme individu. Également, on en sait moins sur vos origines. Vous avez vécu donc à Gentilly. Vous êtes natif de Bécancour. Parlez-nous un peu de votre enfance, également de vos parents, de votre famille.
Bien, je suis né à Bécancour, dans le Bécancour original. Mais mon père avait une ferme. Moi, j'ai perdu ma mère très jeune. J'avais 2 ans quand ma mère est décédée. Alors, j'ai été élevé par mon père un bout jusqu'à ce qu'il se remarie. À ce moment-là, j'avais 8 ans. Toute mon enfance, je l'ai passé là. Donc, et mon père était un homme extrêmement impliqué dans la vie collective de Bécancour. Mon père était Paul Dubois, était secrétaire de la paroisse, secrétaire de la commission scolaire et secrétaire de la compagnie de téléphone, ce qui est devenu aujourd'hui Télébec, ça s'appelait compagnie de téléphone de Bécancour à cette époque-là. Donc, durant toute mon enfance, j'ai vu circuler du monde dans la maison chez nous, de payer des taxes aux trois niveaux. Donc, j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là, même si mon père était complètement apolitique, mais il était touché directement par le service à la population. Donc, j'ai grandi dans ces conditions-là jusqu'à l'âge de 12 ans où je suis parti pour le séminaire de Nicolet, où je suis devenu pensionnaire. Ça a été mon enfance à Bécancour même.
Donc, c'est ça, c'est un peu cet environnement familial-là qui vous a peut-être prédisposé à la vie publique?
Bien, l'image de mon père, puis il prenait beaucoup d'importance, et de ma mère étant décédée, bien, ça a été mon image parentale, évidemment, là. Et puis, oui, absolument, mon père avait une grande influence sur moi.
Je vous ai souvent entendu citer, d'ailleurs, votre père avec une expression bien particulière. Je ne sais pas si vous pouvez...
Bien faire et laisser brève.
Exactement. Donc, ça vous a guidé, ça, en politique.
Alors, mon père avait plusieurs expressions comme ça, mais c'était des grandes vérités. Habituellement, mon père était un homme très sage, pour vous dire ça.
Vous avez raconté dans vos mémoires parues en 2023 que c'est la politique municipale qui est venue jusqu'à vous et non le contraire. Qu'est-ce qui fait que des gens sont venus vers vous en 1979 pour vous convaincre d'être candidat conseiller dans le secteur Gentilly?
Bien, écoutez, j'avais travaillé beaucoup sur le comité de l'Arena, qui a été un événement à Bécancour. L'Arena, la construction de l'Arena en 1980, là, c'est un tournant dans l'histoire de Bécancour, ça. Puis on n'en parle pas assez, là, mais c'est quand même ça, on pourrait y revenir au besoin. Et j'avais terminé aussi un mandat comme président de la Chambre de commerce de Bécancour. Une autre histoire que je pourrais un jour vous raconter, parce que j'ai été président de la Chambre de commerce alors que j'en étais pas membre. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça avait fait que, bon, les gens étaient habitués de me voir un petit peu partout à cause de la Chambre de commerce particulièrement, où on avait eu une année extrêmement dynamique. Et c'est ce qui fait que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'est arrivé, puis je le raconte aussi dans le livre, là, je faisais du blé d'Inde sucré, cassais du blé d'Inde le matin, 6 heures là, dans mon champ de blé d'Inde, et un de mes voisins qui est arrivé de Gentilly, Monsieur Bruno qui me dit, c'est toi qui vas être notre prochain conseiller municipal. Jamais ça m'était passé par l'idée. C'est parti de là, mais lui était parti du fait que j'avais fait ma marque un peu au comité de l'Arena et à la Chambre de commerce. C'est à peu près ça, compté très rapidement. Là.
Et déjà là, vous dites en partant, lors de votre première campagne, que vous voulez faire de l'information votre cheval de bataille. Comment ça s'est matérialisé tout ça?
Ah bien ça, l'information, simplement, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, puis l'information ne circulait pas nécessairement tout le temps. Et pour moi, c'était extrêmement important, surtout à cause de la configuration de la ville, des 6 secteurs. L'information était très, très importante. Comme disait Bernard Landry, l'ancien politicien, en politique, ce qui ne se sait pas n'existe pas. Donc, pour moi, l'information est extrêmement importante et c'était un peu mon premier engagement lorsque j'ai été élu conseiller municipal. Et quelques semaines plus tard, naissait le premier bulletin municipal d'information sur une feuille qui était verte. J'en ai encore une copie chez moi. C'est une feuille 8,5 par 11, pliée en deux, que j'avais rédigé moi-même. À cette époque-là, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc, c'était très important pour moi, la communication avec les citoyens.
Vous avez siégé comme conseiller jusqu'en 1985, et pendant cette période-là, en 1980, il y a eu le lock-out à la ville de Bécancour. Comment qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à un lock-out à la ville? C'est quand même assez particulier.
oui, ça, c'était assez particulier, en effet. Simplement, c'est que le syndicat était naissant, et on n'était pas habitué à ça, ces affaires-là, là, dans les municipalités. Donc, on avait grossi rapidement. Ça s'était tout fait dans quelques années, ça, la fondation de la ville, puis tout ça. Un syndicat, puis un certain nombre d'employés. Et à cette époque-là, ben, il y a eu certaines frictions qui se sont faites, les employés se sont mis à vouloir avoir des meilleures conditions. Et avec raison aussi, il y avait tout à fait raison. Et c'est une décision du conseil de l'époque de dire, bon, ben là, il y a eu des... On a eu au moins un employé qui était plutôt agressif. Là. C'était vraiment... Il y a eu des situations qui sont arrivées que je ne rappelle pas aujourd'hui, là, mais qui ont fait que ça a exacerbé la situation. Et on a dit, bon, ben là, écoute, on va arrêter tout ça là. Pour nous autres, c'était de dire, on va tout arrêter, cette histoire de chicanage-là, de négociation faite à mi-temps, là, et puis on va prendre un petit break, là. Et c'est devenu, l'histoire, c'est devenu un peu un lock-out, tout simplement. C'est qu'on a décidé d'arrêter les pourparlers dans ce sens-là. Alors, c'était un petit peu ça. On pratiquait à faire du syndicalisme jusqu'à un certain point dans ce temps-là.
Décembre 1985, les libéraux de Robert Bourassa prennent le pouvoir. Maurice Richard est élu député de Nicolas Yamaska et quitte donc la mairie de Bécancour. Parlez-moi un peu du contexte dans lequel vous avez voulu lui succéder.
C'est un petit peu un hasard du fait qu'à cette époque-là, le rôle de promaire était assumé à tous les 4 mois. On changeait, parce que durant le mandat de 4 ans, on passait 2 fois comme promaire ou comme maire suppléant. Et c'était mon tour. Alors moi, je tombais maire suppléant, si je me souviens bien, de septembre à décembre de l'année 85, moment où Maurice décide de partir. Moment où se prépare tout l'exercice budgétaire de l'année, au mois de décembre. Alors, je me suis retrouvé sur les feux de l'action. Feux de l'action et feux de la caméra, évidemment. Et ça s'est bien passé, finalement. Puis, je suis rentré là-dedans relativement facilement. Ça a bien été. Qui fait que, ben là, tout s'y met de continuer. Ça va bien comme ça. Puis, bon, et là, il y a eu des élections. Puis, bon, je me suis retrouvé maire officiel.
On ne peut pas dire que ça a été une élection facile pour vous. Par contre, votre adversaire était un autre conseiller, M. Blondin.
Jacques Blondin. On était conseillers tous les deux. Et à cette époque-là, il faut dire qu'il y avait deux gros secteurs de la ville, Saint-Grégoire et Gentilly. Gentilly était le plus gros secteur à cette époque-là, là, dans ces années-là. Donc, ça a été une grosse lutte entre Gentilly et Saint-Grégoire. Ça a été contrôlé de cette façon-là. Ça a été une grosse campagne électorale, mais extrêmement respectueuse. Une campagne vraiment démocratique. On ne s'est pas chicané, on ne s'est pas tiré. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que une fois que l'élection était passée, Jacques était toujours conseiller municipal. Il n'avait pas démissionné comme conseiller pour se présenter comme maire. Okay. Alors donc, il est resté conseiller municipal et ça a très, très bien été entre nous autres. Et 2 ans ou 1 an et demi plus tard, arrivait l'élection normale, l'élection habituelle, et c'est Jacques qui m'a présenté cette élection-là, qui est venu faire la présentation pour m'appuyer publiquement.
Donc, vous êtes élu par 300 voix en 1986 dans une partielle. Vous êtes réélu pour un mandat complet l'année suivante, et au même moment, Bécancour vit une période assez faste au niveau économique. Notamment avec l'arrivée de l'inauguration de l'aluminerie de Bécancour, Robert Bourassa qui était présent, des hauts dirigeants d'Alumax qui venaient des États-Unis, Péchiné en France, les deux partenaires de l'époque. Vous y étiez. J'imagine que c'est un grand moment, ça, à vivre comme maire de Bécancour.
Oui. Écoute, je venais d'arriver à ce siège-là. Je me sentais bien petit pour occuper un si gros siège. Surtout quand Obi est venu faire son annonce officielle, c'était toute une fête avec un immense chapiteau, puis tous les grands de ce monde qui étaient là, le président d'Alumax, les premiers ministres qui étaient, même René Lévesque avait été invité à cette rencontre-là, et j'avais assisté à ça là, un peu un peu enorgueilli de participer à tout ça. C'était un grand événement puis que j'oublierai jamais. Et à ma table, quand on a pris le repas, il y avait justement le président d'Allumax. Il y avait le ministre de l'Industrie à cette époque-là qui était Daniel Johnson Jr., Daniel Fils qui était là. Alors, c'était un événement mémorable, absolument.
Arrivent les années 89 et 90, des inondations printanières importantes, historiques, on pourrait dire même. Celles de 1990 ont été particulièrement dévastatrices. Ça a été la première fois que vous avez été confronté comme ça à des situations d'urgence?
Ou de cette ampleur-là, oui, absolument, parce que c'était majeur là, à cette époque-là. Je me souviens particulièrement ce qui s'était passé au niveau de la rue Leblanc, dans le coin pas tellement loin de Woulinac, où on transportait des animaux avec des camions et qui étaient tirés par ce qu'on appelle, excusez l'expression, un payloader, là, parce qu'il y avait 3 pieds d'eau, là, puis les vaches flottaient, là. Donc, c'était quelque chose d'assez particulier. Il n'y avait plus un seul sous-sol là, qui était pas inondé partout. Il y a eu aussi à Bécancour, parce qu'il y a eu 2 années de suite, là. Mais 90, ça a été plus marquant. Oui, ça a été... fallait gérer absolument toute l'information, la communication avec la sécurité civile. On a eu une belle aide de la sécurité civile, mais... C'était l'hôtel de ville qui était vraiment le centre vital.
Et on a craint le pire à Bécancour. Et parlez-moi un peu de ce qui s'est produit avec les marches du perron d'Élise. Là.
Ah, mon Dieu! Je me rappelais des souvenirs. Oui, à cette époque-là, il y avait un curé à Bécancour qui s'appelait Gilles Mathieu, que j'aimais bien, l'abbé Mathieu. C'était un jeune prêtre, un jeune curé qui était à Bécancour même. Et il y avait de l'eau partout, le village flottait dans l'eau. Les gens dans le village sortaient des meubles de sous-sol, des choses qu'il y avait dans le sol, pour les mettre sur le perron, parce que l'eau était rendue très haute. Et j'étais passé devant l'église, et puis il y avait des connaisseurs du coin qui disaient, « Bon, ben là, c'est... Moi, mon père a vécu ça, puis bon, si l'eau touche le 3e marche, du perron de l'église, l'ancienne église, avant qu'elle brûle, là. 3e étage, ça, c'est la catastrophe totale, là. Il n'y a plus rien qui vit ici, là. Tout est fini, là. Ah, ben là, c'était plutôt décourageant. On était dans l'après-midi, mettons, à 2 heures, et il y avait habituellement à 5 heures, il y avait une remontée de l'eau. L'eau montait, c'était comme une sorte de marée, un phénomène naturel à 5 heures qui faisait que l'eau augmentait. Alors là, on était rendu à la 2e marche. Puis 5 heures n'étaient pas arrivées. Puis le réflexe que j'ai eu, c'est drôle, à mon bureau à l'hôtel de ville, j'appelle Gilles Mathieu. Gilles, toi, t'es curé, là, je sais plus quoi faire, je suis découragé. On a tout fait ce qu'on pouvait. Là, je te confie ça. Occupe-toi de ça. Il n'y a plus rien à faire. On a dépassé complètement. Et phénomène particulier, à 5 heures, l'eau n'a pas monté, elle a baissé. Et l'embarque s'est défaite dans la rivière et la situation est rapidement revenue à la normale. Alors, j'ai toujours dit à Gilles Mathieu, qui est encore là, il est à Nicolette, à l'évêché, puis je dis à Gilles, tu as fait un miracle, Gilles. Puis Gilles, qui est un homme très humble, dit, non, je n'ai pas fait de miracle, c'est la nature, puis etc. Gilles, tu as fait un miracle. Puis je lui dis encore aujourd'hui, Gilles, tu as déjà fait un miracle. Mais il ne me croit toujours pas. Mais moi, j'ai cette conviction-là parce qu'il n'y avait absolument rien, techniquement, qui explique ce qui est arrivé cette fois-là.
Racontez-moi également, il y avait un citoyen sur le boulevard du Danube qui ne voulait pas quitter sa maison, qui était cerné de glace. Vous racontez ça dans votre...
Bien informé. oui, c'est vrai que j'en parle. Oui, c'est ça. C'est un citoyen qui vivait seul dans sa maison. Et puis, il ne voulait pas. Il ne voulait pas quitter, lui. Mais c'était vraiment très, très dangereux. Il y avait... La glace, sa maison était toute cernée par des immenses morceaux de glace et puis l'eau circulait à travers tout ça. Et puis c'était vraiment un spectacle assez étrange à voir. On s'est rendu là en hélicoptère avec le même Gilles Mathieu dont je viens de vous parler. pour aller convaincre, parce qu'il croyait beaucoup au curé, lui-là. Donc, le convaincre de sortir de là, puis d'embarquer avec nous autres dans l'hélicoptère, il ne pouvait pas rester là. Et on a réussi à le convaincre, on a rentré dans la maison, sur les blocs de glace, en glissant, je m'en rappelle encore, je m'étais fait mal au dos là, et je suis parti, il m'a donné un sac, comme un sac de jute, comme une poche, si on veut, là. Il n'y avait rien là-dedans, ça fait qu'il disait, je veux absolument que j'apporte ça. Ça fait que j'ai rentré dans l'hélicoptère, on a rentré ça en haut, puis bon, on s'est rendu à l'hôtel de ville avec l'hélicoptère, et rendu là, on a tout débarqué, puis moi, j'avais toujours ma poche que je tenais précieusement. Alors, quand on a ouvert le sac dans l'entrée de l'hôtel de ville, il y a un petit chien qui est sorti là, c'était son petit chien. Le chien a fait le mort. On n'a jamais douté qu'il y avait un chien dans le sac. Mais quand on l'a, aussitôt qu'on a ouvert le sac, le petit chien est parti. Puis bon, alors ça a été un des événements, ça, des inondations.
Donc, réélection en 1991, par acclamation cette fois-là. Et préalablement, vous aviez pris soin là, d'annoncer votre intention de hausser le salaire du maire, 45 000 $ à l'époque.
Oui, le salaire était autour de 27 000, si je me souviens bien. Mais là, c'était revenu une tâche à plein temps. Là. Je ne pouvais pas faire d'autre chose. Donc, j'avais annoncé avant l'élection, oui, je vais être candidat, mais je vous le dis tout de suite, je vais demander que le salaire soit ajusté à 45 000. On est quand même en 91, là. Ce qui est arrivé à ce moment-là, je l'ai annoncé donc d'avance, et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un éditorial sur le Nouvelliste, à l'effet que le maire annonce d'avance, avant l'élection, qui va demander. Puis le gars, il faisait l'éloge un peu de tout ça. Et effectivement, ça s'est passé. Mais par contre, ça n'a pas fait l'unanimité au niveau du conseil. On s'est retrouvé dans une situation où on était 3-3. Mais je veux pas revenir sur ces affaires-là, puis finalement, c'était mon dernier mandat. J'avais annoncé à ce moment-là, voyant l'attitude qui s'était développée, que on va laisser ça comme ça. Par contre, je vous annonce que je ne serai pas de nouveau candidat en 95. Donc, 2 ans avant l'élection de 95, j'avais déjà dit que c'était fini ma vie politique.
Ça revient régulièrement dans l'actualité et peu importe le palier de gouvernement. Les élus ont encore aujourd'hui l'odieux d'ajuster eux-mêmes leur rémunération. Auriez-vous souhaité que ce soit autrement, qu'il y ait un autre mécanisme pour ajuster le salaire des élus?
Oh bien évidemment, ce serait que ce serait le plus simple et c'est qui mettrait tout le monde dans une situation. Tout le monde serait à l'aise de le faire parce que les augmentations de salaire dans les municipalités se font quasiment à cachette quand il y a moyen là, tu sais, de ne pas créer de débat, là, c'est correct comme ça aussi, parce qu'il n'y a personne, je pense, qui se graisse là-dedans là, d'aucune façon. Je ne me suis pas enrichi à faire de la politique, je me suis appauvri. Donc, à ce chapitre-là, oui, il y aura d'autres façons de le faire, absolument.
En 1992, tant le conseil municipal que la population en général sont divisés sur la façon de disposer de ce que l'on appelait à l'époque les déchets spéciaux. On parle ici, entre autres, des fameux BPC. Dans vos mémoires, on en retient que c'est une page éprouvante pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, écoutez, il y avait deux alternatives. Il y avait à cette époque-là les déchets spéciaux. C'était des déchets qui venaient des entreprises, notamment des papetières, des déchets qui n'étaient pas des déchets dangereux, des déchets domestiques, qui étaient entre deux. Et on avait découvert qu'ici, à Saint-Grégoire, il y avait une possibilité d'enfouir ça. Pas tellement loin du fleuve, à un endroit qui pouvait poser des questions, mais où la capacité du sol pouvait le prendre, parce que c'était très, très glaiseux. Et à cette époque-là, il est arrivé une entreprise montréalaise qui dit, une minute avant d'aller mettre ça dans la terre, ces déchets-là, dont on ne connaît pas l'avenir, on a des techniques pour traiter ça par brûlage ou par combustion. Alors, il y a eu toute une histoire qui s'est passée. À un moment donné, on m'a demandé d'aller visiter le site, l'entreprise qui faisait ça, à Amsterdam. Et puis, je suis parti là, j'ai amené un ingénieur local qui était contre le projet. Je dis, viens voir ça, c'est un ingénieur. Et on s'est retrouvé là-bas on a été impressionné par ce qu'on a vu là. On a dit, c'est peut-être une bonne solution. Par contre, ici, à Bécancour, les gens qui étaient propriétaires du lot, du site, là, il y avait une mine d'or, eux autres, dans les mains. Là. Ça n'a pas passé comme ça. Là. Ils ont dit non. Alors, il y a eu une lutte qui s'est transportée sur le plan politique. et qui a fait que, bon, le conseil s'est divisé là-dessus à ce moment-là, puis il y a eu des assemblées assez importantes là, qui ont été dures à vivre, là, très, très dures.
Et lorsque ça a été adopté, on s'attendait à une soirée assez houleuse. Ça a été une dure journée pour vous,
finalement? Ah, mon Dieu, oui, il y avait... Oui, durant l'après-midi, au point que j'ai vécu ce que je... La seule fois de ma vie que j'ai vécu une baisse de pression, là, à un moment donné, on m'a emmené à l'hôpital, là, parce que là, ça n'allait pas mon affaire, là. Et puis j'avais dit au médecin qui m'a reçu à Nicolette, à l'hôpital du Christ-Roi, moi, là, j'ai une réunion ce soir, là, il faut que je sois à l'hôtel de ville à 5 heures pour la préparation de la réunion. C'est une très grosse réunion. Puis, alors, le médecin qui était là, il a tout compris, il a dit, vous allez être réveillé à 5 heures. Et puis, vous allez pouvoir faire votre réunion. Laissez-nous faire. Alors, je me rappelle que juste qu'ils ont piqué un tube qu'il y avait au-dessus, là, que j'étais attaché. On m'avait posé un tube dans le bras et j'ai perdu la carte. Ça a duré peut-être 2 ou 3 heures. Et effectivement, à 5 heures, je me suis réveillé et il était là, le médecin en question, avec ma conjointe. Et puis, j'étais correct. Puis, je suis allé faire ma rencontre. Ce qui est assez spécial, c'est que là, il y avait des caméras de télévision. On a voulu changer de place, la réunion, qui devait avoir lieu à l'hôtel de ville. Il n'y avait jamais à cette place. On a déménagé ça à la salle Nicolas Perrault. Et là, il y avait du monde dans le stationnement. La salle était bondée. Puis des caméras, puis il y avait à peu près 7, 8, 10 micros sur la table devant. Toute une histoire. Et finalement, ça s'est passé... Très, très, très bien. J'ai fait ma présentation de tout ça. Le vote s'est fait. Le vote s'est fait pour accepter le projet montréalais là, pour le brûlage à ce moment-là, à cette époque-là. Puis finalement, je ne me rappelle plus exactement tout ce qui s'est passé. Finalement, ils ne sont jamais venus. Et le projet n'a jamais eu lieu. Et c'est drôle parce que j'ai fait toute ma réunion ce soir-là et... ça a été comme un blackout pour moi. J'ai fait mon animation de réunion correctement et je ne me souvenais plus de rien par la suite. J'ai perdu complètement la carte pendant ce bout-là. C'est un phénomène assez particulier qui m'est arrivé, effectivement.
Vous l'avez dit un peu plus tôt, vous avez annoncé, je crois que c'est 2 ans d'avance, qu'en 1995, vous ne seriez pas candidat à la mairie. Donc, vous mettez votre carrière politique sur pause. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision?
Ben là, écoutez, ça faisait quand même 16 ans que j'étais, ça faisait 14 ans à ce moment-là, là, que j'étais en politique municipale. J'ai fait le tour du jardin. Puis deuxièmement, il fallait que je gagne ma vie, moi, à cette époque-là. J'avais 2 enfants à l'université, un autre qui se préparait à entrer au cégep. Les revenus, puis j'opérais avec ma conjointe un restaurant gentil, puis c'était pas les meilleures années en plus. Alors, il faut que je gagne ma vie honorablement. Moi, là, un des éléments là, qui a milité en faveur, et surtout que c'était si compliqué de donner un revenu qui avait un peu d'allure à cette époque-là. Ça, j'ai décidé de faire autre chose, absolument.
Donc, retour en 2012, vous tentez un retour. Vous êtes défait à ce moment-là par Gaétan Desilets. Vous dites dans vos mémoires que vous en avez tiré des leçons. Quelles leçons?
Je vous dirais, l'art de perdre en politique, c'est très, très important. D'apprendre, tu peux être gagnant, je n'avais jamais perdu rien, moi, là. Donc, ça a été une leçon qu'en politique, il y a une vertu qui est extrêmement importante, ça s'appelle l'humilité. Alors, j'ai appris à la dure, c'est le cas de le dire, l'humilité. Puis j'ai appris aussi à la dure dans le sens que c'est pas facile de perdre une élection. C'est extrêmement blessant, je vous dirais. Et ça m'a pris un petit bout de temps à avaler tout ça. Pas, j'avais absolument rien contre Gaétan, parce que l'élection, ça avait été faite correctement, puis tout avait été dans les règles de l'art, là. Mais de subir ça, là, tu sais, c'était difficile. Là. Quand tu penses que, bon, tu dis, ah, oui, c'est certain que je suis le meilleur, puis tout... Et puis là, les gens disent, non, tu n'es pas le meilleur, mon chum, retourne chez vous, retourne faire tes devoirs. Alors, c'était une leçon de vie à ce chapitre-là, mais une leçon de démocratie aussi.
Ça n'a pas été long, vous êtes revenu à la mairie l'année suivante, en 2013. Comment ça s'est passé, votre retour?
Bien là, écoutez, c'était toute une histoire. J'ai tergiversé, c'est le cas de le dire, longtemps, pendant plusieurs mois, quand j'ai appris que Gaétan ne revenait pas. Je suis allé vérifier avec elle, elle a dit non, moi, je n'ai pas, je ne retourne pas. Donc, et là, à ce moment-là, il y avait un autre candidat qui s'annonçait, Carl Grondin. Et c'est un peu à la dernière minute, moi, que je suis arrivé parce que j'ai eu bien téléphone, j'ai eu bien des pressions qui m'ont été faites. Et finalement, ben j'avais la question d'expérience qui entrait en ligne de compte là-dedans. Ça fait que c'est un petit peu à la dernière minute que je suis devenu candidat pour cette élection-là.
Donc, vous êtes réélu. Ça correspond, ça, cette réélection-là, avec un contexte économique assez particulier. Il y a eu quelques mois, ou peut-être un an auparavant, la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. Il y a plusieurs projets industriels qui sont annoncés, RER Hydro, IFCO et Quest Mineral, tout ça. Et c'est des projets qui n'iront pas finalement de l'avant. Est-ce que ce sont des années qui ont été frustrantes pour vous sur le plan politique?
Oui, oui, évidemment, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas eu toujours des faciles, ça veut dire, durant les 20 quelques années que je suis passé là. Mais ça me souvient que dans la semaine qui a suivi l'élection, dans les 7 ou 10 jours qui ont suivi l'élection de 2013, je me suis retrouvé dans une super conférence de presse. Il y avait 5 ou 6 ministres qui étaient là, qui venaient annoncer RER Hydro. Ça, c'est la grande entreprise révolutionnaire qui, au lieu de faire des éoliennes dans l'air, faisait une éolienne dans l'eau.
Une hydrolienne.
L'hydrolienne, ouais. Dans l'eau. Puis il y avait une expérience à Montréal. Un méchant petit brou. En tout cas, il nous a monté un scénario absolument incroyable. 1,4 milliard qu'il mettait là-dedans. Moi, j'arrivais là. Tabarouette. Par-dessus ça, arrivait Quest Minerals. Un autre milliard. De sorte qu'en l'espace d'à peu près 3 mois, plus un paquet de petits problèmes au niveau environnemental, qui avait eu un colloque qui avait été fait ici à Bécancour, à Gentilly notamment. Et là, ça n'avait pas de bon sens. C'était le Klondike, là. C'était le bonheur total. Les entreprises arrivaient à Bécancour. Puis moi, j'avais une tendance vers l'environnement, puis il y avait beaucoup d'environnement là-dedans. Ça fait que j'étais heureux comme c'est pas possible d'être heureux. Alors, vous savez ce qui est arrivé? Bien, l'air hydro, ça s'est avéré à être un feu de paille total. Après ça, Quest n'a jamais levé vraiment. Le paquet de petites entreprises qui va venir, bien là, à un moment donné, il y avait bien des licornes là-dedans. Là. Ça fait que tout ça a fait que ça s'est un peu aplati, puis il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est pour ça que en 2014, début 2014, il faut faire de quoi? Ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'on avait prévu n'est pas venu. Et c'était un de mes engagements de la campagne électorale, dans les 100 jours de mon élection, de tenir un chantier économique. Alors, j'ai tenu le chantier économique en 2014. C'est un de mes beaux souvenirs. Je pensais qu'on serait 12, 13, 14 qui participeraient à cette rencontre-là, à la Société du Parc. On s'est retrouvés 60. On ne savait plus où les mettre, là. Il y avait du monde de partout, de l'éducation, du domaine économique, de tous les domaines qui étaient là, d'université, les cégeps, tout ça. Alors, ça a été un peu une sorte de virage pour l'économie de Bécancour qui s'est manifesté. Les retombées du chantier économique ont été multiples. Le virage vers la PME en disant... On ne peut plus se fier sur les grandes entreprises pour faire notre économie parce qu'on n'a aucun contrôle dessus. La PME, toutefois, on est capable de pouvoir l'organiser plus. C'est plus stable, c'est plus sécurisant. Plusieurs PME qu'une grosse, immense entreprise qui décide de partir à n'importe quel moment. Après ça, ça a initié un petit peu l'incubateur qui est venu par la suite. Ça a été un mouvement, ça a donné tout ça. Ça a donné une prise en main par la ville de son développement économique. Et c'est là qu'on a créé DEBI, D-E-B-I, pour Développement économique Bécancour Inc. Alors, et DEBI a eu quand même une vie assez intéressante. C'est un DEBI, je pense, je ne sais pas si la compagnie, ça a été dissous comme organisme, là, mais c'est DEBI qui a été le mandataire du projet de la filière batterie. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là.
Abordons maintenant un autre fait marquant de cette deuxième partie de votre passage en politique municipale. C'est votre désir de raffermir les liens économiques et sociaux avec Trois-Rivières et la Mauricie en général. Le découpage des régions administratives n'est peut-être pas le reflet du lien naturel qu'il y a entre Bécancour et Trois-Rivières. Donc, quel est le bilan que vous faites justement de l'initiative que vous avez prise de vouloir vous rapprocher de Trois-Rivières?
J'en suis très fier pour deux raisons. Quand on a fait le chantier économique en 2014, je me suis à un moment donné rendu compte qu'il y avait à peu près la moitié des gens, des 60 que je vous ai parlé, qui venaient de Trois-Rivières. C'est assez particulier. La moitié qui venait de Trois-Rivières. Donc, il y a quelque chose. Il n'y avait personne qui venait de Drummondville qui était là. Ça venait de, ni de Victoux non plus. Là, puis je n'ai rien contre eux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai toujours... puis ça, ça m'a attiré beaucoup de roches. Beaucoup de... En tout cas, le découpage de la région 17 versus la région 3, puis je le pense encore, que c'est mal divisé. On appartient à la région 17, qui est effectivement la région Victo-Drummond, et alors qu'on est collé sur Trois-Rivières, notre hôpital, notre cégep, notre université, toutes. J'en connais pas beaucoup qui vont à l'université de Drummondville. J'en connais pas beaucoup qui vont au cégep de Victo. Une méchante gang qui va à Trois-Rivières. J'en connais pas beaucoup qui utilisent les services de santé de Drummond-Victo. Ils sont tous à Trois-Rivières. Mais, par contre, le découpage fait que, normalement, notre réseau de santé devrait être avec la Rive-Sud. Donc, on est très mal situé dans cette région-là. Et maintenant, il est trop tard pour y revenir en arrière, mais je continue à penser que c'est pas, c'était pas vraiment pas approprié. Ce qu'on a eu comme... c'était très arbitraire comme de prendre le fleuve comme zone de division entre les deux. Là.
La nouvelle vallée de transition énergétique, dans une certaine mesure, vous donne un peu raison parce qu'on a relié Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan comme vallée.
Ouais, ça, c'est pas de ma faute, là, mais ouais. C'est correct. Ça confirme, oui.
Parlons un peu du fonds de développement économique de 200 millions mis sur pied par le gouvernement Marois là, pour compenser les pertes engendrées par la décision de fermer Gentilly 2. Il y en a qui ont trouvé qu'on avait peut-être éparpillé les sommes un peu loin. Vous, quel bilan faites-vous? Est-ce que vous êtes resté sur votre appétit?
Oui, un petit peu, c'est certain, parce que on a dit pour. On a fermé la centrale nucléaire qui, incidemment, se situait à Bécancour. Le 200 millions qui a été mis là-dessus pour faire un fonds de développement, c'était excellent. C'était une très belle initiative dans le temps. Sauf que c'est comme si ta maison brûle, tu es assuré pour 500 000 $ sur ta maison. Puis là, la compagnie d'assurance dit ouais, ta maison est brûlée, là, 500 000. Par contre, on ne te le donnera pas, le 500 000, là, parce que ton voisin a eu de la boucane, lui, là. Il ne faut que tu oublies ça, là. Puis après ça, tu as dérangé du monde autour, puis il y en a plusieurs là, qui ont senti la fumée, puis il y en a plusieurs qui ont vu le feu, ça les a réveillés à nuit. Tu sais, c'est ça un peu qui est arrivé. Il y a beaucoup d'argent, une partie qui a été livrée bien loin de Bécancour, qui n'avait pas vraiment souffert de la fermeture de la centrale. Alors, à ce chapitre-là, c'est un souvenir. Par contre, il y en a d'autres qui en ont profité. Il ne faut pas voir le côté négatif non plus. Il faut voir le côté positif. Et on n'est pas à mesure de dire... on n'a jamais eu beaucoup d'informations là-dessus. On n'est pas à mesure de dire combien, effectivement, ça a donné. Par contre, l'initiative est excellente. Et puis, j'ai eu un petit peu de difficulté à cette époque-là parce que je faisais des petites montées de lait à l'occasion. Je suis capable de faire ça, moi, des montées de lait. Alors, j'en ai fait en masse durant cette période-là, mais il demeure qu'il y a eu quand même des retombées.
La fermeture de Gentilly 2, il y en a plusieurs qui ont estimé que ça n'avait pas été une décision judicieuse. D'ailleurs, ça revient dans l'actualité une décennie plus tard. Ouais, ouais. On voit ça peut-être comme une façon de produire de l'énergie qui est verte. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion?
Ma réflexion personnellement, là, je parle pour moi-même personnellement, là, la centrale nucléaire ne m'a jamais fait peur. C'était tellement contrôlé, tellement... C'est moins dangereux que de se promener sur l'autoroute 30, la centrale nucléaire, avec tous les moyens qu'on prenait. Et autre élément, puis je le dis davantage aujourd'hui, c'est qu'il y a une époque où on avait trop... On nageait dans l'électricité, on les vendait aux États-Unis, on ne savait plus quoi faire avec. Il y a un petit problème qui arrive, là, l'électrification automobile, là, c'est qu'on a manqué d'électricité. Et ce qu'on va faire encore, harnacher des barrages, on va-tu faire encore des Bay James? Je ne pense pas. Les éoliennes, bien évidemment, vous savez comment ça se passe. Il y a tout un phénomène d'acceptabilité sociale. Mais la centrale nucléaire, dans le fond, moi, je dis que c'est 5 % de la population qui a fait 95 % du bruit dans tout ça. J'ai l'impression, là, aujourd'hui. Là. Et on me dirait qu'on songe, on refait un projet pour produire avec la centrale nucléaire. Je ne tomberai pas en bas de ma chaise, moi, puis je ne serai pas nerveux du tout.
Ayant moi-même couvert d'actualité municipale, je peux en témoigner. Les fêtes du 50e anniversaire de Bécancour en 2015 ont été un prétexte pour donner à la ville de nouvelles infrastructures et créo touristiques. Et je crois que vous êtes particulièrement fier de l'aménagement du quai de Saint-Angèle.
Oui. Oui, oh oui, c'est évident que ça a été la place du quai du 50e, le chapiteau, la tour, le trolley. À chaque fois que je vois ces éléments-là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite fierté. J'ai la même fierté aussi pour toute l'infrastructure récréotouristique de la ville. Là. Le Moulin Michel, le parc de la rivière Gentilly, la biodiversité, Société acadienne Port-Royal. C'est tous des éléments où je me suis un petit peu dépensé, là, puis j'ai assis tout auquel j'ai cru. Et celui-là est venu un peu couronné. L'ensemble de tout ce développement-là. Et je suis très fier de ce qui se passe. Et c'est en train de donner une couleur, une saveur à la ville de Bécancour. Autre que d'avoir des grosses shops, là, on a aussi une vie sociale, culturelle extrêmement riche et intéressante.
On arrive maintenant aux élections de 2017 contre Martine Pépin qui n'ont pas été reposantes selon vos propres dires, mais au terme desquelles vous l'emportez quand même facilement. Vous entreprenez à ce moment-là votre dernier mandat. Celui-ci sera marqué par le long conflit de travail à la luminerie de Bécancour. Et je pense que je ne me trompe pas si je vous dis que ces 18 mois vous ont paru particulièrement longs.
Oui, surtout inconfortable. C'est le mot que j'ai envie de dire, inconfortable. D'un côté, on avait des citoyens qui étaient des employés qu'on ne voulait pas énerver, d'une part. Et d'autre part, on avait aussi une compagnie qui nous fournissait près de 20 % de nos revenus de la ville, 15, 16 % des revenus de la ville. Moi, j'avais fait des calculs. S'il fallait que la luminerie ferme, compte tenu des taxes qu'elle paye, compte tenu de toute la sous-traitance qu'elle génère, de toutes les entreprises qui dépendent d'ABI, c'était catastrophique. C'était catastrophique. On ne pouvait pas. C'est impossible de continuer à faire vivre cette ville-là parce que ABI était tellement un gros morceau dans tout ça qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas que ça ferme. Donc, c'était exactement deux situations opposées où des gens te disaient non, ça ne fermera pas. Ça a passé proche de fermer. Ça a passé très proche de fermer. Puis il n'en manquait pas beaucoup pour que ça ferme à un moment donné. Alors, tout ça a fait que, oui, c'était, c'était pour toutes ces raisons-là, là, ça a été... parce que il y a des places, je ne veux pas tout raconter mes histoires, mais quand les gens viennent te voir à l'hôtel de ville à la fin de l'après-midi pour te dire, tu aurais peut-être avantage à fermer ta gueule. Ah. Okay. Je me suis fait ramasser une couple de fois dans des restaurants. Mêle-toi de tes calices d'affaires, toi, et tu bois. Tu sais... C'est des situations que tu les avales, mais on dirait qu'il reste un mouton dans la gorge à certaines occasions. Donc, j'ai vécu tout ça, puis bon, je pense qu'on s'en est assez bien sorti, puis j'étais inconfortable, effectivement.
On s'en rappelle, la MRC et la Ville de Bécancour ont voulu, pendant cette période, d'être en quelque sorte des pionnières en matière de fibre optique, parce qu'il n'y avait aucune entreprise à ce moment-là de télécommunications qui voulait investir des millions pour déployer un tel réseau dans un milieu si peu dense, un milieu rural. Les élus se sont donc lancés eux-mêmes dans cette aventure sans garantie que les gouvernements allaient embarquer, puisqu'il n'y avait encore aucun programme disponible à cette fin. Nous reviendrons dans quelques instants sur toutes les embûches que ce projet a connues, mais estimez-vous, avec le recul, que les élus ont fait le bon choix en prenant ainsi les devants?
La décision, oui, de le faire, je pense que c'était la bonne, et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est parti de la MRC. Par contre, en ce qui nous concerne, nous autres, à Bécancour, le but, c'était de desservir toute la section sud de la ville de Bécancour, particulièrement Sainte-Gertrude et Précieux-Saint, parce qu'il y avait des services dans tous les autres secteurs, là, pas assez bien, sauf la partie sud de Saint-Grégoire, partie sud de Gentilly, évidemment. Puis les autres sont au sud du bord du fleuve. Fait qu'il n'y avait pas de problème. On avait un service avec d'autres télécablodiffuseurs. Maintenant, il fallait desservir toute cette... Ça n'avait pas de bon sens dans ces années-là qu'on n'ait pas aucun service. Puis ça causait un paquet de problèmes. Alors donc, oui, on a embarqué parce que c'était absolument indispensable. C'était quasiment aussi important que l'électricité à ce moment-là. Alors, maintenant, je vous dis, si c'était à recommencer, je le ferais différemment. Je le ferais différemment. Je le traiterais certainement différemment et notamment, je le traiterais de concert avec la téléphonie cellulaire. Parce qu'au moment où on se parle, on est le 30 janvier 2024 aujourd'hui et essaye pas d'appeler quelqu'un à Précieux-Saint. Essaye pas d'appeler quelqu'un à Sainte-Gertrude. Ça rentre pas. Ça a été facile de le faire tout en même temps, mais à ce moment-là, on est parti. C'était quand même un projet de 14 millions au total en comptant toute la section, la partie S, c'est-à-dire la MRC. Mais non, ça a été une bonne décision. Maintenant, je vous dis, je la ferai très, très différemment.
Ça a été semé d'embûches, là, ce déploiement-là. Ça a été interminable. Racontez-nous un peu toutes les contraintes administratives, techniques.
Je veux pas...
Mais pas toutes, là, mais en partie.
Oui, c'est parce que je ne veux pas non plus sortir d'ici en disant que c'était rien que des cochonneries que tu as eues du bois, tout là. Non, pas du tout. Non. C'est une belle expérience, globalement, tout ça. Mais parmi les dossiers, il y a beaucoup de dossiers qui sont un peu merdeux. Dans ces affaires-là, parce que la fibre optique, ça en a été un. Pour l'enchevêtrement de législation qu'il y a là-dedans, le CRTC, qui a des catalogues de règlements, après ça, la compétition qu'il y a entre les poteaux, l'histoire des poteaux, il faut que je parle un petit peu des poteaux. D'un poteau de téléphone, ça n'a l'air de rien, c'est une structure de bois sur le long d'une route, là. Vous amener à penser qu'il peut y avoir des fois 4, même 5 locataires après le poteau. Il y a un propriétaire du poteau. À chaque fois qu'un des locataires veut bouger quelque chose, il faut qu'il demande au propriétaire. Et le propriétaire, lui, doit aller voir les autres locataires pour dire, ça te dérangerait-tu que le locataire B fasse un changement dans son affaire? Et ça ne te dérange pas, mais il faut que tu t'acceptes. Tout ça, là, c'est pas... Des jours, des semaines, c'est des années de délai à accepter. Donc, Bell Canada est propriétaire du poteau. Je donne un exemple. Là, dans beaucoup de cas, c'était ça. Bell était propriétaire. Il y avait deux câbles distributeurs qui passaient dans le même poteau. Il y avait Hydro-Québec, évidemment, qui passait aussi dans le même poteau, dans bien des cas. Alors, tout ce monde-là, chacun le tour, disait « Oui, je suis d'accord, parce que nous autres, on faisait affaire avec Sojetel à ce moment-là, pour que Sojetel vienne passer un fil, de fibre optique, dans notre poteau. » Alors, ça a été ça pour les, je ne sais pas combien de milliers de poteaux de la ville de Bécancour. Après ça, le poteau, s'il n'était pas en bon état, s'il n'était plus capable de subir un autre fil de plus, bien là, il fallait décider si on changeait le poteau. Et si on changeait le poteau, c'était aux frais de la ville. C'était pas eux autres qui payaient le poteau. Il avait besoin d'être réparé. Donc, il est arrivé je pourrais vous conter des histoires d'écureuils qui se sont passées là-dedans. Des histoires du gars qui arrive, qui avait eu un permis il y a 3 ans, qui n'avait pas eu le temps de faire les travaux. L'autre arrive, puis il voit, le fil est là. Il n'était pas là quand l'inspecteur a passé. On recommence le processus à zéro, qui a duré une couple d'années. Et un poteau pouvait retarder 75, 100, 150 autres poteaux. Il fallait que tous les poteaux soient disponibles en même temps. Sinon, il n'y a rien qui fonctionnait. Alors, c'est ce qui fait que... C'est pas encore fini, hein? Ça fait 5 ans, là. Puis c'est pas fini encore la saga en question, là. C'est encore une problématique.
Autre.
Mais on a de la fibre optique partout.
Oui. Autre événement qui n'a pas été facile pour les élus municipaux, c'est la fameuse pandémie de COVID-19 qui a commencé en 2020. Vous écrivez que c'est venu briser votre mandat. Donc, de quelle façon ça a brisé le mandat qui est en cours pour vous?
Le dernier mandat, oui, ça a été très, très difficile parce que, évidemment, une municipalité, ça fonctionne sur la communication. Il y a deux blocs de décision dans une ville. Il y a le bloc des élus, puis il y a le bloc des gestionnaires. Les directeurs de services, les employés, tout ça, c'est eux autres qui connaissent la job. Ils savent comment ça se passe. C'est eux autres les experts. Les conseillers ne sont pas des experts dans rien, normalement, habituellement. Et c'est eux autres qui décident, c'est eux autres qui prennent les décisions. C'est sûr que ça ne se fait pas sans qu'il y ait parfois des accrochages, que les employés disent « ça n'a pas de maudit bon sens la décision qu'ils prennent », ou que les élus vont dire hey, « ça devrait fonctionner autrement à plus bas ». C'est plein de tout ça. Mais là, on a été un an et demi sans se voir. On ne pouvait pas entrer à l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville était fermé. Alors, on se parlait, les élus, à travers le Zoom, le logiciel Zoom, dans nos écrans d'ordinateur. Et on ne se voyait jamais, on ne pouvait pas se voir, c'était défendu, on ne pouvait pas sortir de la maison. Ça a créé des situations pas faciles à vivre, tant du côté des employés cadres, des employés de la ville, qui n'y avait plus d'élus. En tout cas, s'ils n'avaient, ils ne les voyaient pas. Et puis, on se parlait à travers un écran de télévision, là, c'est pas du tout la même game, je peux vous en parler. Donc, ça a été difficile. La fin de mandat a été pas facile. On a recommencé à se réunir, puis encore là, il fallait se réunir en se tenant à trois pieds l'un de l'autre. 2 mètres, c'est tout ça?
Avec les plexiglas,
C'était quasiment gênant de se parler. Fait que ça a été difficile. Autant on était un groupe qui avait du plaisir ensemble, on avait des belles relations, c'était une belle atmosphère. Et ce qui est le fun en politique, c'est la gang. C'est un peu comme au hockey. C'est autant dans le vestiaire. C'est la gang. Il faut avoir du plaisir à gérer en politique et ça nous a coupé le plaisir un petit peu.
À ce moment-là, le projet de zone d'innovation de Bécancour est sur la planche à dessin. Ça l'était en tout cas lors de votre départ. Ça a beaucoup évolué dans la mission. Au départ, on parlait de décarbonation des industries lourdes, mais là, la vallée de transition énergétique est beaucoup plus large. Ça s'étend jusqu'à Shawinigan, ça ratisse également filière batterie, l'hydrogène, tout ça. Quel regard jetez-vous sur l'évolution que ça a connue après votre départ?
Bien, écoute, je ne peux pas ne pas être heureux de voir que la Bécancour se démarque et puis qu'il va se passer quelque chose à Bécancour. Je trouve que ça se passe très vite. C'est arrivé tout d'un paquet. Et là, autant, c'était tranquille, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, là, ça lève des immenses bâtisses, des annonces de milliers d'emplois qui arrivent tout en même temps. Les problèmes, il va y avoir des problèmes de circulation tantôt. On parle de la 30, on parle du pont. Le pont m'inquiète comme capacité parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi, encore aller demeurer du côté de Trois-Rivières. Parce qu'il y a un paquet d'avantages au niveau des services, au niveau de l'emploi, au niveau de l'université, au niveau de plein d'éléments, éducation, santé, bon. Le pont va devenir un goulot d'étranglement, là, si ça continue comme ça, bien, c'est déjà un peu commencé. Alors, il y a un gros développement, ça vient avec ses défis. Il y a des gros défis. C'est des beaux défis, des très beaux défis, puis je souhaite que ça aille bien, puis je souhaite que ça... Mais qu'on ne perde pas, j'espère qu'on ne perdra pas de vue la mission de base au tout début qui était décarbonisation de la grande entreprise. Moi, je veux bien faire mon effort pour l'environnement, puis laver une cuillère plutôt que de prendre un bâtonnet de plastique puis de l'acheter à la poubelle pour brasser mon café. Je lave ma cuillère, puis je touche pas l'environnement. Pendant ce temps-là, pendant que je lève ma cuillère, il y a des millions de tonnes de GES qui sont garochées dans l'atmosphère par les grandes entreprises. À Bécancour, on a cet avantage-là d'avoir un écosystème d'entreprises pétrochimiques importantes qui, tout ensemble, pourraient trouver intérêt à utiliser d'autres façons de faire, la par la décarbonisation de leurs procédés. Ça, je pense que ça reste toujours possible, mais je ne voudrais pas qu'on le perde de vue.
On l'a dit, ça va très vite, ces projets de développement industriel, là. Est-ce que vous avez des regrets que ça se passe après votre départ ou si vous regardez
non.
ça?
Ouais. Moi, je vais quitter, là. Je pense bien que vous ne m'avez pas vu jouer à la belle-mère. Là. Je veux dire, on vit ça avec ce qui se passe au moment où ça se passe. Je ne suis pas en mesure de juger la situation comment elle se passe aujourd'hui. Je n'ai pas du tout aucun intérêt non plus à m'infiltrer dans ces choses-là. À ce moment-là, non, je me dis que je ne regrette rien. Je suis fier de ce que j'ai fait du temps que j'étais là. Et puis, je souhaite qu'ils gardent la même fierté aussi à leur tour.
On le disait en début d'entretien, vous avez toujours accordé une importance cruciale aux communications avec les citoyens. Les réseaux sociaux, toutefois, ont beaucoup changé la donne et pas toujours de la bonne façon. Est-ce que cette situation-là vous préoccupe aujourd'hui?
C'est évident que ça a changé complètement et il suffit de se mettre au courant de l'actualité pour voir le nombre incalculable de conseils municipaux où ça brasse mal à certains égards. Et ce chapitre-là, oui, ça a changé beaucoup des choses. La façon de faire l'information est complètement changée. Les vieilles méthodes là, qu'on a connues, là, je pense, sont caduques, sont dépassées. Donc, à ce chapitre-là, je trouve ça un peu dommage que l'information soit aux mains de n'importe qui. Et il y a tout un phénomène qui se passe dans le domaine de l'information. On n'a plus de nouvelliste, là, comme on l'avait à l'époque. Là. Tout est changé. Et la réadaptation va être plus facile pour les jeunes. Mais il y a toute une classe de monde, là, les plus âgés, pour qui c'est pas facile.
On en parlait au début, l'Aréna Roland-Rault est pour vous un symbole important d'appartenance à la grande ville qui est née en 1965. Réunir 11 villages dispersés sur un vaste territoire, c'est sans doute pas une chose qui a été facile. La ville est maintenant divisée en 6 secteurs. Est-ce que cette fusion, selon vous, est réussie?
Oui, je dirais, elle a juste commencé à être réussie. Et je reviens à l'Aréna parce que on est en 1979, là, à peu près, 78-79, quand le comité de l'Aréna se monte, formé de personnes des 6 secteurs. C'est la première fois que ça arrivait. Avant ça, on restait chacun dans notre secteur. La ville n'existait pas. Tu restais à Sainte-Gertrude, tu restais à Saint-Grégoire, tu restais à Saint-Angèle. Là, le mot Bécancourt, ben, c'est pour ceux qui restaient dans ce secteur-là, oui, c'est correct, là, mais pour la première fois, on a connu des gens d'ailleurs. Puis moi, j'ai découvert un paquet de monde, puis c'était des gens qui étaient très, très, très évolutifs, là, qui voulaient bâtir un aréna à Bécancourt. Donc, c'était le premier projet rassembleur, je dirais, qui a fait qu'il était possible que les 6 secteurs s'unissent ensemble pour pousser un projet. Et l'aréna est né. Il s'est promené de nuit un peu, là, parce que la localisation, évidemment, n'a pas été sans créer de... Mais un soir, je me souviens, comme si c'était hier, à la vieille salle Nicolas Perrault de Bécancourt, on avait fait la soirée, un genre de soirée. Dans le temps, il y avait une mode, ils faisaient des télétons. Des télétons. On avait utilisé le système pour inviter un paquet de gens. Et là, on avait mis un gros cadran, en fait, compte, là, et où on mettait les montants qui rentraient. D'argent, il y avait le Club des 100, il y avait toutes sortes d'affaires, puis on avait monté un projet pour dire, on va faire monter. On pensait de dire, bon, on va espérer. Le projet, c'était 1 million. On ramassait au moins 200 000. Quand la soirée a fini, on avait 410 000. J'ai encore des découpures de journaux, là. 410 000 qu'on avait ramassé sur un projet d'1 million. Et ça a décollé là. Je dirais que ça a décollé là. Et là, il y a un enthousiasme, un engouement qui a fait que les 6 secteurs ont embarqué. Et là, il n'y avait pas de couleur locale. Là. C'était vraiment l'aréna de Bécancourt.
En conclusion de vos mémoires, vous y allez d'une série de leçons que vous tirez de vos 24 ans de politique municipale. Laquelle de ces leçons souhaitez-vous le plus partager avec des élus actuels ou ceux qui seraient tentés justement par la politique?
La politique, c'est pas évident. Il faut y penser, il faut s'y préparer. J'ai laissé dans le livre que je produis, ce livre-là, je l'ai produit un petit peu comme aide, comme leçon, si on veut. Qu'est-ce que moi j'ai appris, puis qu'est-ce que d'autres pourraient apprendre aussi de mon expérience. Ça s'est divisé en 7 commandements, mes 7 commandements. Jésus de Nazareth n'a fait 10, moi j'ai arrêté à 7. Là. Le premier commandement, c'était l'humilité. Il faut s'en aller là avec l'humilité. Il faut s'en aller là avec de l'intégrité. Il faut être honnête quand on s'en va dans ces affaires-là. Il faut être ouvert, faut beaucoup d'élégance. On n'engueule pas le monde, puis on ne se laisse pas engueuler en politique. Là. Faut faire ça de façon correcte, de façon vraiment claire et polie tout le temps. Il y avait aussi la gratitude. Il faut savoir reconnaître ce que les gens font pour nous autres, comment les gens peuvent nous aider. Il faut beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour pour aller en politique. La politique, ça risque d'être de l'improvisation. Je suis entré là, moi, par improvisation jusqu'à un certain point. Je ne m'attendais pas d'aller là. Je n'étais pas préparé à ça. Faire de la politique, ça se prépare. Peut-être ma leçon la plus importante. Préparons-le. Attendons pas que ça nous arrive, mais préparons-le en ayant des objectifs précis, en étudiant notre matière aussi, comme il faut.
Pour quelle réalisation souhaiteriez-vous que l'histoire se rappelle de vous?
Fierté et appartenance. On a fait une ville avec 6 secteurs. Puis, la santé financière, parce que faire de la politique, c'est de gérer des budgets, c'est faire de la répartition d'argent. On parle tout le temps d'argent. Et donc, la dimension financière est extrêmement importante. Ça, j'ai la conviction qu'on a laissé une ville vraiment en santé.
Je constate que votre agenda est encore occupé, même après la vie politique, et vous avez quand même beaucoup d'activités. De quoi est fait, je dirais, votre emploi du temps maintenant que vous êtes retraité de la politique?
Bien là, j'ai pris pas mal de temps à écrire, pour toutes sortes de raisons. J'ai fait mon livre sur 24 ans de vie politique. Avec Louis Baudette, on a fait un sur... la vie du hockeyeur Jean-Guy Talbot, mes mémoires personnelles, ma petite autobiographie que je ne publierai pas, là, mais c'est pour... Et là, je travaille actuellement bénévolement là, sur un projet avec Patrimoine Bécancour sur mémoire vivante, justement, pour inciter des personnes retraitées, âgées, à écrire leur histoire. Il y a tellement des belles histoires qu'on échappe parce qu'on ne les écrit pas, parce qu'on ne le dit pas. Et je travaille là-dessus pour mettre au monde ce projet-là. Pas nécessairement on se met à écrire des livres, là, mais faire ce qu'on est en train de faire actuellement, là, sous forme de balado, sous forme d'entrevue, mais inciter les gens à se raconter. Ça, je trouve ça tellement important. Puis, bien évidemment, je vais faire quand même un petit peu de sirop d'érable encore cette année.
Jean-Guy Dubois, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Les grandes entrevues sont une production de Via 95. Entrevues, recherche et montage, Jocelyn Ouellet. Collaboration à la production et à la diffusion, Éliott Tousignan, Justin Savard, Philippe Saint-Pierre et Louis-Martin McCardle. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.